Orange, c'est jusqu'à 14h et c'est l'heure, Elisabeth, de découvrir la solution du jour avec Dora Nana.
Eh oui, aujourd'hui on s'intéresse à l'hôtellerie avec vous, Dora Nana, bonjour.
Bonjour Elisabeth.
Et une solution pour les hôteliers qui souhaitent prendre un peu de congé et c'est pas toujours évident de trouver son remplaçant. Il y a une solution, elle s'appelle Théodim.
Oui, c'est la solution qui va faciliter la vie des gérants d'hôtels. Alors, les gérants d'hôtels, ils sont souvent face au casse-tête de leur remplacement et grâce à cette plateforme, les directeurs d'hôtels de la France entière, ils peuvent désormais prendre des vacances et surtout partir l'esprit tranquille. Parce que Théodim les met en relation avec des professionnels qui géreront l'hôtel pendant leur absence. Bonjour Rémi Boulanger.
Bonjour.
Merci
Bonjour.
D'être avec nous. Hein, oui. Vous êtes cofondateur donc, de Théodim. Mm-hmm. Alors vous, je précise, vous êtes hôtelier de métier. C'est important. Et Théodim, votre plateforme, c'est de la mise en relation entre des hôteliers, donc, comme je viens de le dire, qui souhaitent s'absenter quelques jours, et des remplaçants qualifiés pour le poste. Ça fonctionne comment concrètement sur votre plateforme?
Alors, le fonctionnement est très simple et on l'a voulu très simple. L'objectif de ce qu'on fait, c'est qu'un hôtelier qui a décidé de s'absenter pour des vacances, par exemple, va se connecter et en à peu près 3 clics, il va être capable de poster une annonce, de se créer un compte gratuitement et de poster une annonce. Et sur cette annonce, en face de lui, vont venir se positionner des remplaçants professionnels sélectionnés et qui font partie du vivier Théodim et qui seront capables d'intervenir de manière ponctuelle sur son établissement.
Donc, les profils, on est d'accord, c'est l'hôtelier qui choisit ou vous vous proposez? C'est juste de la mise en relation?
Alors, c'est juste de la mise en relation. Nous, on référence donc sur des bases très solides de sélection en fait, de nos prestataires. Mais c'est effectivement l'hôtelier qui a la clé, qui a la solution en fait, et qui a le choix de son profil.
Donc c'est lui qui choisit, qui fait son recrutement.
Exactement. C'est lui qui choisit
son profil. Ses propres critères.
Oui.
Et alors, les remplaçants, comment vous rassurez l'hôtelier? Vous le rassurez à un moment? C'est-à-dire, comment on sait qu'ils sont qualifiés, compétents pour le poste, qu'ils vont être à la hauteur de l'enjeu?
Alors, c'est évidemment un point absolument essentiel. Les profils qu'on référence dans notre vivier ont tous au moins 5 ans d'expérience à la direction, en gestion ou en propriété d'hôtel. Ce sont des personnes qui sont indépendantes, donc qui sont gérants de leur société. Donc, on s'assure qu'ils ont des attestations sociales et fiscales parfaitement actuelle. Mmh. Et puis, ils ont une assurance également qui est spécifiquement dédiée au management de transition. Donc, une fois qu'on a récupéré tous ces éléments, ils sont libres de naviguer sur la plateforme et de venir se positionner sur les annonces.
Et on imagine qu'il y a une passation entre les deux, c'est-à-dire qu'ils passent un peu de temps ensemble pour justement se former entre gérant et remplaçant, pour que ça se passe le mieux possible.
Ça fait partie du moment de passation, en fait, de la définition de la fiche de poste, où effectivement l'hôtelier va venir dire « moi je souhaite avoir une demi-journée, voire une journée complète de passation avec mon remplaçant afin de bien préparer la
passation
mission. »
En fait, c'est la formation, c'est la transition.
Exactement, c'est les éléments les plus importants, s'il y a une urgence sur l'établissement, une coupure d'eau.
Comprendre le logiciel par exemple de réservation, ça peut être aussi très technique.
Alors ça peut être technique. Nous en amont, l'objectif de ce qu'on fait, c'est de référencer des personnes qui sont déjà capables de faire ça.
Donc ils
connaissent l'environnement professionnel, ils connaissent les logiciels.
Donc il faut être qualifié pour aller
bien
chez
sûr,
vous.
Bien sûr, il faut être hôtelier.
Que dit notre coach Sylvain Lambert?
C'est quoi votre modèle économique? En gros, qui paye qui?
Alors, c'est l'hôtel qui nous paye. Business model est très simple. On a un forfait de base qui est de 30 euros par jour de mission. Donc, l'hôtelier, lui, va recevoir 2 factures, la nôtre, et la facture du remplaçant qui, lui, établira son propre contrat, son propre tarif et sa propre facture sur laquelle nous n'intervenons absolument pas.
Donc, et il y a un vrai besoin aujourd'hui, justement. Vous sentez vous adresser qui? Qui sont les remplaçants, par exemple? C'est quel profil?
Les remplaçants sont tous donc des anciens propriétaires d'hôtels, d'anciens directeurs qui ont envie d'un petit peu de liberté. Je crois que la tendance actuelle est vraiment dans ce sens-là dans notre milieu.
Parce que c'est compliqué de prendre des vacances quand on est comme ça dans hôtelier.
C'est-à-dire qu'un hôtel économique, un petit hôtel surtout, un gérant d'hôtel, il fait absolument tout.
Oui, on ne parle pas des grands palaces, là, on parle des petits hôtels dans des petites villes.
Alors c'était notre objectif de départ, de travailler sur des petits hôtels éco, et en fait on s'est rendu compte que potentiellement tous les hôtels avaient besoin de ce qu'on fait sur des moments précis, ça peut être des ouvertures, des fermetures. Donc on ne parle plus que de périodes très courtes de vacances, mais aussi de management de transition quand il y a une valeur ajoutée managériale à apporter différente.
Vous traitez combien de demandes par an, par mois ou depuis l'ouverture? Alors, ça représente quoi comme
d'abord, avant la création de notre plateforme, on les traitait directement par téléphone, par mail. Donc c'était un petit peu
à l'ancienne,
exactement. La plateforme a vu le jour là au mois de juin et actuellement, on traite à peu près une demande par jour.
Ah ouais, c'est bien.
L'objectif, c'est d'en avoir beaucoup plus, évidemment.
Surtout sur Paris ou
pas du tout.
Partout en France?
Principalement ailleurs. Principalement à la montagne, à côté de la mer.
Ça plaît à Sylvain.
Oui, surtout à la montagne.
Aujourd'hui, on a un vrai ratio, nous, qu'on suit, c'est le nombre de jours de remplacement qu'on effectue. Et là, actuellement, on en est à 2000 jours traités et réalisés en 2019. On a un objectif de multiplier au moins par 5 ce chiffre d'ici 3 ans.
Ça vous permet de vivre, ça?
Ça me permet récemment, depuis peu, en fait, ça me permet de vivre, effectivement. Parce qu'en fait, on a un modèle qui est très sain, très pur, dans le sens où on a très peu de charges. On est deux associés, deux
salariés, vous êtes deux?
Pour l'instant, non.
Vous avez un système de notation ? Dernière petite question rapide.
C'est une excellente question. Nous n'avons pas encore de système de notation, mais c'est effectivement une évolution qui va arriver avant la fin d'année, où un remplaçant, quand il repartira de l'établissement, de sa mission, il sera noté sur certains critères. Et lui, de même, notera les conditions de remplacement sur lesquelles il a été accueilli. Donc ce sera un système très transparent.
Merci en tout cas Rémi Boulanger d'être venu nous présenter Théodime. Je tiens à saluer votre maman hein, parce que c'est grâce à elle que vous êtes arrivé ici puisque c'est votre maman qui nous a sollicité à Europe 1. Elle nous a écrit un petit mail pour nous parler de vous, donc on la salue.
On l'embrasse. Salue très chaleureusement, un gros bisou.
On la salue tous.
Midi 57. Europe 1.
Restez avec nous dans La France Bouge. Gros plan sur les podcasts aujourd'hui, une pratique de plus en plus courante. Des entrepreneurs français se sont lancés dans l'aventure du podcast. À tout de suite.
Europe 1, midi 14h, La France Bouge. Elisabeth Assayag.
Bienvenue dans La France Bouge, seconde partie. Gros plan aujourd'hui sur les podcasts, c'est le dossier du jour. Les voyants du marché du podcast sont au vert, en croissance quasi exponentielle en France. Ils aiguisent les ambitions. Pour en parler, nous sommes avec notre coach du jour, Sylvain Lambert. Vous êtes associé au cabinet PwC et Dora Nana, vous m'accompagnez toute la semaine. Vous êtes journaliste à la rédaction d'Europe 1. Avant d'accueillir notre première invitée, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, Dora Nana, je m'adresse à vous. Le podcast, c'est quoi ?
Alors, le podcast, c'est une création audio que l'on peut écouter n'importe où, n'importe quand, parce qu'on peut la télécharger sur son téléphone, sur sa tablette, sur son ordinateur.
Création alors, audio, c'est quoi ? C'est une histoire ?
Oui, c'est une histoire, c'est tout un tas de formats. En fait, c'est un format, le podcast. Mm-hmm. Alors, pod, ça vient de l'iPod. Vous savez, c'est ce petit baladeur moderne de la marque Apple qu'on a tous eu un moment dans nos poches.
Pour écouter de la musique.
Voilà, pour écouter de la musique. Et d'autres, broadcast en anglais, qui veut dire diffusion. D'ailleurs, les Canadiens, ils utilisent le terme de balado diffusion. Alors, les replays, c'est des émissions de radio, donc des programmes de rattrapage, par exemple. On écoute ou on réécoute de chez soi un programme
par
radio,
exemple,
ça c'est du podcast, voilà, La France Bouge, vous la podcastez. Et il existe aussi des créations sonores qui sont spécifiques, inédites, qui sont produites pour un public sans passage à la radio, et c'est ce qu'on appelle les podcasts natifs.
Donc
vous allez beaucoup l'entendre lors de
média,
l'émission.
Podcast.
Voilà, c'est un podcast natif, ça. Alors aujourd'hui, il existe de nombreuses plateformes de diffusion justement de podcasts. On peut citer les plus statutaires, c'est Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox ou encore Magellan. Voilà, il existe aussi des studios de podcasts indépendants. Et voilà, on va en parler tous ensemble parce qu'on va recevoir pas mal d'acteurs aujourd'hui.
Et tout à fait. Et le premier, c'est vous, Maxime Piquette. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez eu l'ambition de créer votre propre podcast, enfin de nous aider à nous tous de créer notre propre podcast. Vous êtes le cofondateur et le directeur de Ausha, A-U-S-H-A.
Exactement.
C'est quoi Ausha ?
Ausha, c'est, comme vous l'avez dit, en fait, une solution qui vient simplifier le fait de créer et de surtout diffuser, de rendre disponible son propre podcast sur toutes les plateformes qu'on vient de citer, et ça en quelques clics seulement.
Donc vous n'êtes pas une plateforme, vous nous permettez de créer. Par exemple, j'ai une idée, j'ai envie de faire un podcast sur les animaux, je peux venir vous voir.
Tout à fait, parce que ce qu'on ignore en fait quand on démarre un podcast, c'est que c'est pas si simple que ça. On peut pas prendre son enregistrement, on enregistre sa voix.
On va prendre mon vieux dictaphone ou mon enregistreur
et l'envoyer sur Apple Podcast.
Et le mettre.
Non, c'est pas possible.
Il y a tout un travail à mettre en place.
Il y a une connexion en tout cas à avoir entre les plateformes, donc Apple Podcast, Spotify, etc. et vous. Et ce lien, c'est les hébergeurs comme Ausha qui permettent de le faire.
Alors vous avez commencé en 2013, vous avez créé Radio Booking. Je confonds avec l'autre
oui,
pour les voyages. Radio King, c'est une plateforme qui permet de diffuser, de créer de la radio sur Internet. Et vous avez, vous avez un associé qui s'appelle Charles, c'est ça ?
Tout à fait.
Et au fur et à mesure, vous vous êtes dit, c'est bien de créer ses propres radios, mais il faut aussi s'intéresser là, à ce marché du podcast, parce qu'il y a peut-être quelque chose à faire.
Oui, en fait, on s'est dit, il y a à peu près 2 ans de ça, qu'on aimait la radio, on aime toujours énormément la radio, mais la façon dont on consomme aujourd'hui les médias est totalement différente par rapport à la façon dont on les consommait il y a 10 ans de ça. Mmh. Aujourd'hui, on veut pouvoir consommer notre contenu quand on le veut, en mobilité, on veut avoir un large choix parce qu'on est très difficile maintenant dans ce qu'on a envie de consommer en termes de contenu médiatique, très exigeant. Et en fait, qu'on a aligné tous les paramètres ensemble, on s'est dit, mais en fait, on ne va pas réinventer la roue, c'est le podcast. Et qu'on a regardé le podcast, on s'est rendu compte aussi que ce n'était pas si simple que ça, de faire un podcast et de le distribuer à tout le monde. Et c'est là où on a imaginé Ausha.
Alors aujourd'hui, vous vous êtes développé un peu partout, même à l'international. Hein. Le service est disponible en plusieurs langues, 6 langues, sur 120 pays. Vous hébergez des milliers de radios. Comment ça se passe avec Ocha, par exemple? Si avec vous, je veux créer mon podcast, est-ce qu'ensuite, il vous appartient à 100%? Est-ce qu'il est à moi? Est-ce qu'il est à vous?
Ah non, il est entièrement à vous. Nous, on ne prend aucun droit là-dessus. On se voit vraiment comme une solution technique pour faciliter simplement le fait que vous soyez présent partout. Par contre, c'est votre podcast, c'est votre contenu et à aucun moment on ne prend des droits dessus.
Notre coach, Sylvain Lambert.
C'est quoi la typologie de vos clients?
Très variable et c'est ça qui les rend très, très intéressants. C'est qu'on a à la fois des clients qui sont des podcasteurs indépendants, qui ont envie de raconter des choses, qui ont des choses à raconter.
L'équivalent d'un youtubeur aujourd'hui ou d'un instagrammeur.
Oui, exactement, vous avez raison, c'est vrai. Il y a youtubeur et maintenant il y a podcasteur.
Tout à fait. Et de l'autre côté du scope, on a des entreprises qui ont envie de communiquer sur leur marque à travers le podcast ou également des médias. On travaille beaucoup avec des médias aussi qui, comme vous ici, souhaitaient diffuser du podcast sur toutes les plateformes.
Alors, on trouve quoi sur Ocha?
C'est-à-dire,
je sais pas, quelle thématique? Toutes les thématiques sont les bienvenues?
Tout.
Il n'y a pas une dominante en particulier?
Du tout, et c'est ça qui est encore plus intéressant. On a des podcasts qui vont parler d'histoire, on a des podcasts qui vont parler de la maternité, on a des podcasts qui vont parler de foot. En fait, c'est ce que moi j'adore personnellement avec le podcast, c'est qu'il y a forcément une thématique qui va vous plaire et qui va répondre à quelque chose que vous aimez.
Mais je vois que vous parlez de monétisation du podcast. On peut être tenté d'avoir un podcast, moi je ne veux pas le faire payer, ce qui m'intéresse juste c'est de que mon message soit diffusé, quelqu'un qui veut se faire connaître c'est pareil. Quels sont les podcasts qui sont payants aujourd'hui, les types de podcasts? Est-ce que ça existe déjà?
Alors il y a des podcasts payants, c'est plus rare, il peut en exister, mais ce qui, en termes de monétisation...
Vous monétisez alors justement?
Oui, on monétise, mais on monétise par de la publicité qui peut être jouée au début du podcast, mais... Je dirais que ça, c'est le choix du podcasteur. On ne va pas l'obliger, c'est le podcasteur qui va décider s'il a envie ou pas de monétiser son podcast et à ce moment-là d'avoir une publicité au début. C'est quelque chose qu'on vient de lancer avec deux partenaires, Soundcast et Audiolads. On l'a lancé la semaine dernière, on est très heureux, on est parmi la première plateforme française à lancer ça.
On reste ensemble et on continue à explorer le domaine du podcast avec des entrepreneurs qui ont osé.
Il est 13h19.
Europe 1.
À suivre, une école dédiée à la production des podcasts. C'est dans un instant.
Un dossier du jour consacré aux podcasts dans La France Bouge. Est-ce que vous écoutez des podcasts? Est-ce que ce format vous plaît? Dites-le nous sur Twitter, @Europe 1. Appelez-nous aussi, on sera ravis de vous entendre. Au 39-21, c'est 50 centimes la minute, Elisabeth.
Et oui, on sera ravis de vous entendre parce qu'il y a quelques années, le podcast n'évoquait rien à personne. Aujourd'hui, l'engouement est total. Il faut donc savoir en faire. Et heureusement, il existe une école. Bonjour Ziad Malouf.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Merci à vous.
Vous avez passé 20 ans derrière un micro, puis vous avez eu l'idée et l'envie de créer Transmission. Transmission, c'est une école de podcast en quelque sorte, on peut dire ça comme ça?
Oui, c'est une école de narration audio, de podcast, ça peut être de radio. Parce que
c'est
finalement,
joli en français, narration audio.
Oui, ouais, finalement c'est le mode de diffusion qui change, mais on peut écouter un podcast à la radio, on peut l'écouter en balado-diffusion, en se promenant, etc. Donc c'est vraiment ça qui change en premier. Et puis évidemment, la manière dont on écoute, les outils avec lesquels on écoute, ça va changer la manière dont on va raconter les histoires. Quand on parle au creux de l'oreille d'une personne, c'est pas pareil que quand on parle dans une voiture, au milieu de la circulation, etc. C'est différent.
Alors donc, en janvier 2018, vous vous êtes dit, on va former les personnes qui ont envie de créer un podcast. On va tenter de les aider. Donc, vous, avec deux autres fondateurs, vous avez lancé Transmission. Et très, très vite, il y a eu beaucoup de retours.
Ah oui, on a été comblés. En fait, d'abord, on a fait une école gratuite parce qu'à l'époque, moi, je travaillais encore à RFI, donc dans une autre radio. Et puis, j'avais pas envie de gagner de l'argent avec ce projet. Notre envie, c'était vraiment d'insuffler de la narration, c'est-à-dire d'utiliser le média radio pour raconter des histoires, vraiment remettre l'histoire au centre de l'audio, au centre du podcast, Et donc, on a démarré, on a juste envoyé un tweet à l'époque et on a reçu 400 candidatures en moins d'une semaine.
Donc vous avez envoyé un tweet, vous aviez un petit local ou...
On n'avait rien du tout. On n'a toujours pas de local. En fait, on n'a pas besoin de local parce qu'on emprunte des lieux à des gens. On se réunit soit le soir, soit le week-end. La première année, c'était le week-end. La deuxième année... la première année, c'était le week-end. La deuxième année, c'était le soir. Et donc, il y a beaucoup de locaux disponibles. On n'a pas eu besoin de local. Et en termes de matériel, les gens ont souvent un petit enregistreur, un ordinateur, et ça suffit.
Il faut quoi, justement ? C'est quoi le matériel pour un podcast ?
Un petit enregistreur, c'est mieux qu'un téléphone, quand même, pour enregistrer.
Pourtant, il est bon, le son du téléphone, parfois ?
Ouais, mais parfois.
D'accord.
Donc, un petit enregistreur, c'est bien. Surtout que c'est très peu coûteux. Aujourd'hui, les premiers prix de choses qui sont déjà bien, c'est autour de 80 euros. Il y a 10 ans ou 15 ans, du matériel quasi professionnel, ça valait des milliers ou l'équivalent de milliers d'euros. Donc voilà, un petit enregistreur, un petit ordinateur et éventuellement une couette aussi pour s'enregistrer quand on parle et ne pas avoir de bruit ambiant.
Donc 400 candidatures, succès immédiat, Dora.
Oui, moi, vous venez de l'univers radio. C'est une façon vraiment différente de travailler. Comment on fait un podcast par rapport à justement une émission de radio ? Qu'est-ce qu'il y a de plus ? Vous parliez d'intimité, tout à l'heure on chuchote au creux de l'oreille. Il y a quelque chose de différent ?
Moi, je dirais qu'il n'y a pas tant de différence que ça. C'est simplement que il y a vraiment, disons, une radio en direct, comme celle qu'on est en train de faire, qui se vit, qui se fait en direct, etc. Il y a une radio qui est plus une radio peut-être de production, qu'on va écouter en différé, qui peut rester. Avant, ça ne pouvait pas rester. Quand on a commencé nos carrières, la plupart d'entre nous, la radio ne restait pas. Quand on voulait réentendre quelque chose, c'était compliqué.
C'était perdu.
Voilà. Aujourd'hui, on peut réentendre. Donc, ce qui reste, forcément, c'est comme quand on imprime un livre, eh bien, on raconte des histoires différemment. C'est tout. C'est la seule différence.
Ça vous a encouragé. Vous avez relancé une deuxième promotion, là, en janvier 2019. Ouais. 25 personnes.
Ouais, et on a des résultats qui sont incroyables.
Sylvain.
Oui, je crois comprendre que le modèle a évolué parce que là, vous avez quitté votre job chez RFI. Ouais. Donc, est-ce que c'est devenu un projet...
En gros, vous gagnez de l'argent ou pas ?
Non, est-ce que c'est devenu un projet plus économique ?
Alors, c'est une vraie question. C'est-à-dire qu'on veut garder l'esprit et en même temps, on se rend compte que la gratuité, ce n'est pas toujours une très bonne solution.
Donc, c'est plus gratuit.
Pour l'instant, si, on est encore gratuit, mais on se rend compte que c'est une solution qui n'est bonne pour personne en général. C'est-à-dire que pour nous, ça fait de la frustration à un moment et pour les personnes, ça les démotive. C'est-à-dire qu'elles ont l'impression que comme elles ne payent pas, ça n'a pas de valeur. Donc, la première année, on a eu beaucoup d'abandonnistes. La deuxième année, on a été plus sévère avec ça, donc on en a eu très peu. Mais on se rend compte que c'est absurde. Par exemple, on a dans nos élèves, on a des créateurs d'entreprises qui sont millionnaires. Donc, on se dit qu'ils pourraient peut-être payer une petite formation, etc. Mais en tout cas, c'est pas l'enjeu pour nous. L'enjeu, c'est vraiment d'insuffler de l'envie d'histoire, des talents, enfin de faire émerger des talents narratifs en fait en audio. Et c'est incroyable parce que des personnes, la première année, par exemple, une personne qui n'avait jamais produit quoi que ce soit en audio, mais qui avait un talent, a eu un prix au festival Longueur d'onde, qui est le plus grand festival de radio en France, et il y a deux prix à Longueur d'onde.
Voilà, donc quels sont les critères pour choisir vos élèves ?
Le goût.
Parmi les 400 candidatures,
en fait, c'est vraiment le goût de ce média. Le goût de ce média. C'est vraiment le seul critère.
À travers une lettre, on peut...
Ouais, après, on rencontre les gens, mais on n'a aucun critère technique, on n'a aucun critère en termes de savoir-faire, on a un critère de goût. On se rend compte que les gens qui ont le goût de ce média, mais un goût profond, une grande curiosité, plein de références, ce sont des gens qui vont avoir des facilités à créer bien dans ce média.
Il y a des gens de tout âge, moi je me demande justement, ça recrée du lien social entre les gens intergénérationnels, entre ceux les apprenants et ceux qui...
Réponse simple, donc le plus jeune cette année avait 20 ans et la plus âgée avait au-delà de 60 ans, je ne connais pas son âge exactement.
D'accord. Sylvain ?
Et leur motif, c'est très personnel ou c'est des gens qui ont une utilisation du podcast en vue d'appuyer à leur business ou c'est vraiment juste des messages à passer ?
Alors tout le monde, il y a plein de motivations, mais disons que c'est quand même un univers d'auteur, c'est-à-dire qu'il faut avoir envie de raconter des choses. D'accord. Que ce soit nos histoires ou celles des autres, mais il faut avoir envie de ça. C'est là où les gens se reconnaissent, se retrouvent.
Aujourd'hui, ça marche bien et je crois que vous avez même un nouveau projet.
Alors oui, on va ouvrir à Aubervilliers, c'est la ville où on est basé symboliquement, puisqu'on est mobile. On va ouvrir là, pour le coup, un vrai lieu qu'on appelle la cassette.
Un lieu pour enregistrer des podcasts.
Un lieu indépendant pour les personnes qui veulent venir enregistrer avec des petits studios de poche, un lieu aussi de vie pour les personnes qui s'intéressent aux médias audio en général.
Le Web Café, présenter... c'est un podcast café. Quoi.
Exactement, une podcasterie ou une maison d'audition, on l'appelle comme on veut, mais on ouvre ce lieu à la rentrée à Aubervilliers.
On reste ensemble, on continue à parler de cet engouement pour les podcasts en France.
Il est 13h28.
Europe 1.
Vous avez envie d'écouter un podcast et vous ne savez pas lequel choisir ? Eh bien, il existe une plateforme. Restez avec nous.
Europe 1.
Les podcasts sont à l'honneur cet après-midi dans La France Bouge. Vous écoutez des podcasts, dites-nous, vous avez une idée de podcast, pourquoi pas. Vous avez des questions pour nos invités. Appelez-nous 3921, c'est 50 centimes la minute. Vous pouvez également nous écrire via Twitter, @ Europe 1, Elisabeth.
Ah oui, l'univers du podcast grandit de jour en jour pour choisir ce qui nous convient le mieux. Il existe une plateforme. Bonjour Karine Filliot.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice d'Elson. Alors Elson, c'est une plateforme d'écoute et surtout c'est une plateforme qui recommande, qui me recommande si moi j'ai envie de trouver un podcast mais je ne sais pas trop lequel choisir. Eh bien vous, chez Elson, vous allez m'aider à le trouver.
À trouver le chemin du podcast, à trouver le chemin aussi de sujets qui peuvent vous intéresser, mais peut-être aussi des sujets auxquels vous n'avez pas pensé, des styles de podcasts. Nous, on va puiser des podcasts aussi bien dans le champ de la radio, donc des radios nationales, des radios locales, des radios associatives, un peu partout dans la sphère francophone, pas uniquement en France, mais en Belgique, en Suisse aussi. Parce qu'en fait, on trouve qu'il y a en fait un patrimoine aujourd'hui que produit aussi la radio et qui n'a pas encore trouvé le chemin de...
Comment l'utiliser ou le réécouter?
Alors, il y a les modalités pratiques et comment on accède. Effectivement, nous, sur Elson, on voit qu'on a deux populations. On va dire d'un côté des radio lovers, donc des gens qui ont déjà des habitudes d'écouter la radio, mais qui n'ont pas encore basculé dans le podcast en tant que plateforme ou application mobile où il faut chercher ou parfois découvrir un podcast, c'est pas du tout évident. Donc aujourd'hui tous les projets qui se lancent sont exactement parce qu'on a d'abord un problème structurel qui est que l'audio c'est du son et que pour faire de la recherche on a besoin de texte, on a besoin du sémantique. Donc aujourd'hui on essaie, nous chez Elson, d'essayer de parer à ce problème là en essayant d'amener une nouvelle découverte des podcasts, donc ceux qui sont des podcasts de réécoute mais aussi ceux dont on a parlé, c'est-à-dire tous ces nouveaux créateurs qui se lancent parce que c'est une envie personnelle, un sujet à porter, parfois à incarner fortement, qui sont aussi très intéressants. Simplement, quand vous arrivez aujourd'hui sur un catalogue, si vous tombez sur un catalogue énorme de podcasts, bah finalement, vous êtes un petit peu perdu. Donc nous, on a choisi d'avoir un axe de développement où on va mettre de l'humain à l'intérieur. Mmh. Donc on éditorialise, on rééditorialise des podcasts existants. Donc on n'en produit pas encore, ça viendra. Mais aujourd'hui, on essaie de faire le tri.
Vous faites le tri.
On les classifie, donc on fait des recommandations. Un son chaque jour à écouter, une playlist de podcasts thématiques qui peut aller puiser de Europe 1 à peut-être France Culture, Radio Campus Paris, un podcasteur indépendant.
Alors vous dites que justement il y a un catalogue énorme de podcasts. Dora, quelques chiffres, c'est un marché qui représente énormément
C'est énorme le marché, c'est un marché en pleine croissance, c'est plus de 4 millions d'auditeurs par mois en fait. En 2018, il y avait 8% des internautes qui écoutaient des programmes podcastés radio. Aujourd'hui, c'est plus de 30% des internautes qui écoutent tous les mois des programmes radio en différé. Donc vous imaginez le bon, ça fait un internaute sur trois. Mmh. Et à savoir aussi, je rebondis sur ce que vous venez de dire, c'est des pratiques d'écoute qui s'encouragent mutuellement. C'est-à-dire ceux qui écoutent des podcasts natifs, ceux dont parle notre invité, donc des créations sonores spécifiques et inédites, ils écoutent aussi souvent avant la radio, donc en écoute traditionnelle. Donc c'est pas du tout antinomique. Et en contraire, ça les encourage même pour 22% d'entre eux à continuer à écouter davantage. Donc c'est un marché très dynamique, émergent. À signaler quand même, moi ça m'a étonnée en préparant cette émission, c'est un public plutôt masculin, plutôt jeune, ça on s'en doute, même si seuls 15% des auditeurs de podcast ont entre 15 et 24 ans. Donc il y a un gros marché aussi sur les plus jeunes.
En tout cas, ceux qui les créent sont plus âgés.
Oui, alors sur le public masculin, j'en doute. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a très peu d'études. Il y a quelques études qui sont citées, mais qui ont été faites.
C'est des sources médiamétriques. Ouais, moi, j'étais très étonnée.
Justement, c'est parce que
plutôt masculin.
Par exemple, quand nous, on a lancé les candidatures pour notre école, on a eu 400 candidatures. Il y avait 320 candidatures féminines.
Ah, oui.
Et l'année suivante, pareil, 80 à 90%.
Je parlais de ceux qui écoutent, moi.
Je fais de la formation au podcast pour une entreprise qui s'appelle Samza. Et c'est dans mon dernier groupe, il y avait 8 femmes. Et donc oui. Mais sont les mêmes qui écoutent et qui
font. Mais pas forcément d'accord.
Moi, je suis complètement d'accord. On a la même chose. On a 80% de femmes en formation. Mais c'est surtout qu'en fait, on voit des petites différences. C'est-à-dire que les femmes sont des auditrices avant tout qui, au bout d'un moment, ont envie de prendre la parole et de porter un sujet. Les hommes, ils pourraient peut-être plus le faire comme s'ils faisaient de la radio associative. On se regroupe et on a plutôt une thématique d'intérêt pop culture, technologie, entrepreneuriat. Donc, c'est pas exactement les mêmes choses. Donc, on passe d'un statut d'auditeur à celui de créateur, mais pas forcément pour faire les mêmes productions.
Sylvain Lambert, notre coach.
Oui, Karine, comment ça fonctionne économiquement? Moi, je vous paye si je vous utilise pour les podcasts ou je vous paye si je vais écouter des podcasts chez vous? Ou personne
parce qu'elle
ne
les aura triées pour vous, c'est ça, leur valeur ajoutée.
Nous, on fait le pari, d'abord, on défend un business model donc à venir qui sera une plateforme équitable. Donc en fait, vous ne payez pas uniquement Elson, vous payez aussi les créateurs qui sont présents sur Elson.
Donc c'est
essayer...
moi à l'écoute qui vais payer.
Exactement, d'accord. En fonction de votre écoute, spécifiquement. Et du coup, vous allez pouvoir reverser spécifiquement au podcasteur ou à la radio que vous écoutez. Ça, c'est un premier, c'est un préalable. Ensuite, dans les contenus, il y a des contenus qui parfois sont simples ou pas forcément élaborés en termes de temps de production, une interview par exemple. Ou alors quand on va sur un documentaire, une fiction, donc ça ne sera pas exactement les mêmes barèmes. Ça, c'est le principe. Le but, c'est d'essayer aussi d'expliquer qu'en fait, le contenu, ça se paye. Donc chez nous, il n'y aura pas de publicité, c'est un modèle qu'on a choisi, mais on intègre une forme de crowdfunding régulier, finalement, à l'intérieur des écoutes. Parce que ce qui nous anime, c'est d'essayer de rapprocher finalement les auditeurs des créateurs et l'inverse. D'essayer de créer un écosystème un peu vertueux entre ceux qui écoutent et ceux qui font. Donc voilà, donc c'est pour ça que notre business model, il est vraiment autour de cette notion d'écoute et de rétribution.
Et c'est à l'écoute produit ou écoute par écoute, je vais écouter un podcast sur ce sujet, je le paye, je vais en écouter un autre, je le paye, ou j'ai envie de, par exemple, m'abonner chez vous.
Oui.
C'est alors, combien d'ailleurs chez vous?
Alors, ça, c'est pas encore, ça sera 7 euros par mois, mais ça c'est un paiement par abonnement, vous pourrez payer en fonction de votre écoute. Donc vous vous inscrivez, vous écoutez, et à la fin du mois, on vous dit, là vous avez écouté tant d'heures, tant de programmes, vous allez reverser à un tel, et ça sera peut-être 3,50 euros, 4 euros, etc.
En ce sens, vous parlez de podcast équitable. On continue à parler du podcast avec Europe 1 Studio, notre label de podcast.
Il est 13h37.
Europe 1.
Restez avec nous, on attend vos questions, vos réactions. Peut-être que vous aussi, vous êtes en train de consommer du podcast. Appelez-nous pour nous parler de vos choix et on attend vos témoignages au 3921, bien sûr.
Dans La France bouge cet après-midi, on s'intéresse au podcast avec vos invités, Elisabeth.
Oui, nous sommes avec Sylvain Lambert, associé au cabinet PwC, avec Dora Nana de la rédaction d'Europe 1 et nos invités. Maxime Piquette, le cofondateur d'Ocha, une plateforme dédiée à l'hébergement des podcasts, avec Ziad Mahalouf, le cofondateur d'une école de podcasts qui s'appelle Transmission au pluriel. Karine Philo, la fondatrice d'Elson, c'est une plateforme qui sélectionne des podcasts. Et avec nous, Claire Azan, bonjour.
Bonjour Elisabeth, bonjour à tous.
Vous êtes la directrice d'Europe 1 Studio, Europe 1 Studio qui est le studio de podcast, le label dédié au podcast d'Europe 1. Avant de vous poser la première question, Claire, Céline, je crois qu'on a reçu quelques réactions
oui,
sur Twitter.
Oui, hashtag Europe 1, on a Marc qui a une question. Comme tous les contenus, la bonne écoute du podcast dépend beaucoup du débit. Est-ce que l'arrivée de la 5G va faciliter encore plus le déploiement du podcast, à votre avis?
Qui veut répondre? Ah, Maxime Piquette, oui. D'Ocha.
En réalité, il n'y a pas encore vraiment de sujet. Il n'y a pas vraiment de sujet sur ça, puisque l'audio a l'avantage d'être très peu consommateur de data par rapport à la vidéo, par exemple. Donc même en 4G, voire même parfois en 3G, ça capte très bien. Et donc la 5G ne changera pas grand-chose là-dessus.
Ziad ?
Je confirme totalement. Le son prend moins de place que la vidéo.
Après, peut-être que ce qui peut changer, c'est l'interaction qu'on va avoir avec les podcasts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on les télécharge, mais les plateformes qui se développent sont basées aussi sur du streaming, un peu comme des expériences Deezer et Spotify. Et du coup, ce qui va être intéressant de voir, du coup, c'est comment on va passer d'un mode téléchargement à un mode écoute en ligne et comment, du coup, toute l'expérience autour du podcast, l'interaction, ce que vous créez, vous, avec des auditeurs au téléphone, avec des tweets, etc., comment ça va faire corps, finalement, avec l'écoute en temps réel du podcast.
Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais Europe 1 développe ses podcasts natif, ses propres créations pour Europe 1, mais aussi pour des marques, pour des médias de presse écrite. Bonjour Claire Azan.
Bonjour.
Donc comment ça marche? Je rappelle que vous êtes la directrice d'Europe 1 Studio.
Oui. Bah, nous, on a, chez Europe 1, on a évidemment l'offre Replay. L'offre Replay elle-même, juste pour en dire un mot rapide, elle s'adapte. Par exemple, Christophe Ondelat, son podcast, qui est un de nos meilleurs podcasts, depuis septembre, il est disponible à 6h du matin. Par exemple, le récit que vous allez entendre à 14h tout à l'heure,
il est disponible. L'écouter avant.
Voilà, il est disponible depuis ce matin 6h. Et pourquoi on fait ça? Parce que justement, il y a des usages qui évoluent, la façon dont on consomme la radio, dont on l'écoute évolue. Et il y a des gens qui ont envie de l'écouter le matin quand ils vont au travail dans les transports. Donc ça, c'est une nouveauté sur notre offre de replay. Et puis, on travaille des productions propres, des productions, des podcasts natifs, comme vous l'avez dit. On le fait de plein de façons différentes. Parce qu'il y a quelque chose qui compte aussi dans Europe 1 Studio, c'est l'ouverture et l'idée de trouver des nouveaux talents, trouver des nouvelles façons de faire, qui est quelque chose de propre à Europe 1 depuis les débuts de cette radio. Il y a plein de projets, alors je ne sais pas si vous voulez que j'en parle
maintenant. Oui, on va en parler évidemment, mais je voudrais qu'on revienne sur ces podcasts natifs. C'est un genre nouveau, ça. C'est quelque chose qui... Au début, on prenait les émissions de radio et ça devenait, c'était des replays. Là, maintenant, on crée son propre podcast.
En fait, c'est logique, c'est ce qui s'est passé avec presque tous les médias sur Internet. On a commencé à faire des blogs pour écrire, il y a les chaînes YouTube pour les YouTubeurs, et maintenant les gens s'emparent du podcast. Alors ce qui a beaucoup aidé, ce sont des solutions comme ce que propose Ocha, en fait, qui ont un peu facilité la diffusion, la création de flux RSS, pour parler jargon, et ça a permis à des gens de sauter le pas. Et voilà, maintenant tout le monde s'intéresse à ce média, beaucoup de gens ont envie d'en faire. Après, c'est vrai qu'il y a quand même un savoir-faire. Il y a quand même un savoir-faire.
Vous avez votre école. Voilà. Claire Azan, quels sont les projets marquants que vous avez déjà réalisés à Europe 1 Studio ?
Il y a des projets qu'on fait qui sont très proches de l'antenne. Par exemple, on travaille avec la rédaction d'Europe 1 ou des figures d'Europe 1 comme Olivier Duhamel, avec qui on a travaillé sur deux séries. On va faire deux nouvelles séries avec lui cette année.
Donc ça, c'est un podcast natif ?
Oui, c'est un podcast natif. Par exemple, l'année dernière, il a raconté les débuts de la 5e République. Et typiquement, la forme podcast permet de travailler avec lui un ton différent de ce qu'il a à l'antenne, quelque chose de plus conversationnel, de plus pédagogique. Je peux déjà vous dire qu'on va faire avec lui cette année, cette saison, quelque chose sur l'histoire des élections américaines.
Mmh,
on a aussi, on a aussi Au cœur de l'histoire, qu'on a repris en podcast, qu'on va reprendre cette saison, trois récits par semaine avec de nouvelles voix. Et puis on a plein d'autres projets. On a quelque chose, d'ailleurs, il y a le podcast festival du 18 au 20 octobre. Et on va présenter là un projet en avant-première sur la justice avec Margot Lanuzel qui travaille au service police-justice. Mmh. On va emmener les auditeurs au cœur de l'intimité de la relation entre un client et son avocat. Ça s'appellera Mon client et moi, avec des avocats pénalistes qui vont justement vraiment dans le récit raconter des clients, des affaires qui les ont marqués, qui ont bouleversé leur vision de la justice.
On l'entend, en fait, on prend son temps quand on écoute un podcast. On choisit le moment. C'est ça l'idée.
C'est ça. Et il y a des nouvelles écritures du coup qui vont commencer à arriver. Bah, déjà le rapprochement par exemple d'une rédaction dans une radio pour une offre comme ça, pour penser un format en dehors de la grille. Déjà c'est déjà une initiative un peu de nouvelle écriture de la radio. Mais également on parlait des blogs, on parlait des chaînes YouTube, mais l'univers des séries télé aussi. Le côté séries télé, les nouveaux métiers qui sont apparus avec les showrunners où on mélange plusieurs auteurs ensemble. Là ce qu'on voit aujourd'hui,
c'est le début
c'est l'immense construction. Parce qu'en fait, pour l'instant, on parle, il y a des chiffres beaucoup aux États-Unis, mais c'est un marché en construction. On
ne
peut pas dire qu'il existe encore pleinement.
Dora, on en parlait tout à l'heure, il y a pas mal de podcasts qui intéressent aussi les entreprises.
Oui, vous l'avez compris, c'est un secteur en plein essor. Donc, du coup, ça donne envie aux entreprises de s'y intéresser de plus près. Par exemple, elles en font un outil de communication pour communiquer autour de leur marque. Cet été, en plein mondial de foot féminin, la Ligue 1 et Conforama, par exemple, ont lancé Rond Central. C'est un podcast dédié à la culture foot. Il y a des entreprises qui s'en servent aussi pour parler à leurs salariés, des concepts d'émissions à destination des salariés et des cadres pour communiquer en interne. Vous voyez, il y a beaucoup de choses de fait.
C'est le cas chez vous, Sylvain ?
Oui, absolument. Et je travaille moi-même sur un podcast sur le développement durable.
Ah, ben voilà. Chez PwC aussi, on s'est mis au podcast. Merci à tous les quatre d'être venus présenter vos entreprises, d'être venus nous parler de cet engouement, de cet essor du podcast en direct sur Europe 1.
Europe 1.
Restez avec nous, on l'aime beaucoup avec les frites. Eh bien, je vous parle de la moutarde. La moutarde est l'objet de l'entreprise qui va bien aujourd'hui. C'est la moutarderie Fallot qui est l'une des plus anciennes de France. A tout de suite.
Elisabeth Assayag sur Europe 1.
Et c'est l'heure, Elisabeth, de découvrir la l'entreprise qui va bien.
La solution, c'est fait. Une entreprise qui va très bien et c'est la moutarderie Fallot. Bonjour Marc Desarméniens.
Bonjour Elisabeth.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Alors vous êtes le petit-fils d'Edmond Fallot, vous êtes le directeur général de la moutarderie Fallot, une moutarderie qui date de 1840, c'est la plus ancienne moutarderie de France.
Oui, tout à fait, et entreprise toujours indépendante et familiale.
Mais comment vous avez fait pour rester toujours en famille ?
Je pense que c'est grâce à mes prédécesseurs, mon grand-père maternel Edmond Fallot, et puis à mon père aussi, Roger Desarméniens, qui a su miser sur la qualité de ses fabrications. C'est-à-dire qu'on n'a pas dévié d'un iota nos recettes, les pourcentages de nos graines, la technique de fabrication à la meule de pierre. Et pour mon père, c'était peut-être pas forcément très facile, parce qu'à l'époque, dans les années 60-70, la grande distribution progressait et les industriels ou les fabricants qui voulaient prendre de la part de marché étaient obligés de travailler avec la grande distribution qui parfois imposait ses lois, ses tarifs. Voilà, donc nous on était un petit peu en dehors de ce schéma-là et je pense que c'est pour ça qu'on est encore aujourd'hui.
C'est comme ça que vous avez pu et su résister.
Oui.
En gardant votre procédé traditionnel hein, d'écrasement des graines de moutarde à la meule de pierre, c'est toujours le cas ?
C'est toujours le cas. Et en plus, aujourd'hui, on a pu, grâce à certains de nos confrères, relancer la culture de graines de moutarde en Bourgogne. Et à ce jour, on est à 100% en graines de moutarde de France, de Bourgogne.
Et la grande distribution vient vous voir vous...
Alors oui, les rôles ont un petit peu changé aujourd'hui.
Vous avez pu quand même faire affaire avec elle.
Oui, la grande distribution est aussi vertueuse. Hein, faut pas non plus sans arrêt taper dessus. On travaille avec la grande distribution. Aujourd'hui, contrairement aux années 70 où il y avait moins de segmentation au niveau des produits et des marchés, aujourd'hui, la grande distribution a besoin de producteurs locaux et de petits fabricants comme nous pour enrichir l'offre, puisque le consommateur aujourd'hui est très, très prisé par les produits qui viennent de ces régions. Donc voilà, après, ce n'est pas toujours facile, parce qu'il y a bien sûr une opération de négociation qui ne se fait pas toujours facilement. Mais en tout cas, on est présent en grande distribution.
Alors vous l'avez dit, hein, votre père a souhaité rester sur ce credo de produits haut de gamme, de qualité. Et vous, en 1994, vous avez repris la maison familiale pour aussi tester des recettes innovantes, pour pouvoir vous diversifier.
Oui, alors bien sûr, l'essentiel des ventes se font encore en moutarde de type Dijon classique au vinaigre ou au vin blanc et la moutarde ancienne
plus,
que tout le monde
plus
connaît.
Connue, finalement.
Mais on a aussi puisé dans l'histoire des maîtres moutardiers en proposant beaucoup de variétés diverses et variées. Il faut rappeler qu'on fabrique de la moutarde en Bourgogne depuis le Moyen-Âge et qu'à l'époque, on proposait des moutardes au miel, on proposait des moutardes aux fruits, on proposait des moutardes à l'estragon. Donc, c'est qu'un retour, si vous voulez, un petit peu aux sources, sachant que la moutarde, c'est un produit qui est sain, qui est naturel, qui est un exhausteur de goût, que beaucoup de grands chefs apprécient aussi. C'est pas uniquement, on a parfois l'image que la moutarde masque les goûts, etc. Non, la moutarde exhauste les bonnes saveurs. Et une viande de Charolles avec une pointe de couteau de moutarde de Bourgogne IGP, c'est exceptionnel.
Sylvain Lambert, vous êtes d'accord avec...
Alors du repas, c'est terrible. On vous trouve où? Parce qu'on a compris, donc la grande distribution est revenue vers vous. Vous avez des canaux de vente directs, on vous trouve dans d'autres endroits?
Alors on essaye de privilégier bien sûr les épiceries fines qui renaissent aujourd'hui un petit peu en France, de plus en plus, et tant mieux. On nous trouve dans des grands magasins comme les Galeries Lafayette, comme le printemps du goût. On nous trouve dans certains secteurs d'activité, partout en France. Après, on n'a pas non plus une part de marché très importante en France. On n'a que 5%. Et puis, comme vous le disiez très justement, l'export qui représente aujourd'hui plus de 55% de notre chiffre d'affaires. Et ça, c'est stratégiquement important pour nous, parce que ça permet vraiment de diversifier notre clientèle et pas mettre tous ses œufs dans le même panier avec le marché français.
Et puis, si on veut vous découvrir, on peut aussi aller à la découverte de la moutarderie Fallot, hein, puisque depuis 2003, vous avez ouvert vos portes au public pour
proposer
un parcours de visite.
Oui, qui est très, très ludique et très intéressant.
Et là, on voit en direct sur europe1.fr toutes les sortes de moutardes. Il y a même des roses au cassis de Dijon, au pinot noir. Il y en a toutes sortes pour nous régaler.
J'ai privilégié les sélections régionales.
Merci en tout cas. Merci Marc Desarméniens d'être venu nous parler de vos moutardes, la moutarderie Fallot qui existe depuis 1840 et c'est l'entreprise qui va bien. Merci. C'est la fin de votre émission. Merci à vous Sylvain Lambert d'avoir joué le coach. Je rappelle que vous êtes associé au cabinet PwC. Merci à vous Dora Nana pour cette première.
Merci Elisabeth.
Vous revenez demain?
Oui.
Génial. Céline, à demain.
À demain.